du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver pour ce numéro, 680e numéro du Coq à l'âne avec autour de la table aujourd'hui Michel Roussel. Salut Mimi.
Salut, bonjour.
Bruno André.
Bonjour
salut
à tous.
Bruno.
Bonjour à tous.
Jeannot, Jean Cointe.
Bonjour.
Et notre invité, c'est Georges Obninski.
Bonjour.
Alors Georges qui, en arrivant, me dit, oh, ça y est. J'ai tout arrêté, je ne fais plus rien, je suis au repos. Autrement dit, il est à la retraite. Ça fait combien de temps que tu es à la retraite,
ouais,
du coup?
Ça fait 7 mois.
Ouais, voilà, 7 mois à la retraite. Et t'aurais peut-être, j'allais dire, préféré une autre période pour goûter à la retraite que la période du Covid, non?
Oui, c'est sûr, mais c'est cette période-là qui a provoqué mon départ à la retraite.
Ah, justement, donc ça a accéléré. Tu t'es dit, bon, allez.
Il y a eu un phénomène de ras-le-bol.
Je profite.
Je ne me voyais pas encore un an d'activité en portant un masque dans mon commerce, etc. J'ai dit, allez, on va jeter l'éponge maintenant.
On laisse tomber, ok. Donc, retraite professionnelle, retraite politique? Approche bien du micro.
Je ne sais pas.
Pour l'instant.
Honnêtement, je ne sais pas.
Pour l'instant, tu es un petit peu en retrait, on va dire.
Je suis en retrait, oui. Tout le monde, parce qu'on parle très peu de politique en ce moment, de toute façon.
Tu ne t'interdis rien, comme on dit.
Je ne m'interdis rien.
C'est bon à savoir, les enfants. Si vous avez une question à poser, hein, n'hésitez pas.
Je vais la faire tout de suite.
Vas-y, allez, fais ta connerie.
Oui.
Alors, vas-y, je suis prêt.
Je te soutiens parfaitement, Georges.
Voilà, ça c'est fait. Je te soutiens, Georges. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas grand-chose.
Eh oui. Il nous manquerait quand même notre Jeannot.
Ah ouais.
Il est perspicace. Hein.
Ah, mais il nous l'a fait à chaque fois. Hein.
Oh, mais
j'en suis arrivé à un point où j'évite d'inviter les Georges.
Pour l'instant, on n'a qu'un de Georges à peu près.
On en a qu'un?
Oui.
Ah, c'est possible. Bon, en tout cas, le petit jingle pour toi.
Tu me déçois énormément.
Comme d'habitude, bien sûr, le petit jingle. Bon, on va parler de cet épisode de gel de ce mois d'avril. C'est déjà probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début de 21e siècle. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. C'était sur Public Sénat. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'hectares qui ont été impactés, donc a ajouté le ministre en soulignant qu'il était encore trop tôt pour chiffrer en euros les dégâts. Mais on parle de 2 milliards. Je ne sais pas si tu as noté des chiffres, Bruno.
Non, j'ai pas de chiffres, non.
En tout cas, d'abord fixé à 500 000 euros, le président Renaud Muselier annonce finalement une aide pour la profession de 3 millions d'euros. Qui seront certainement les bienvenus. Je voudrais vous faire écouter un petit reportage qu'on a fait cette semaine. Alors, vous allez entendre différentes personnes. Christian Allard Latour à Remolon, qui est arboriculteur. Voilà. Éric Lyons, que tu connais bien.
Arboriculteur vigneron.
Arboriculteur vigneron. Éric Lyons, président.
De la Chambre agriculture, oui.
Voilà. Et on terminera avec un arboriculteur qui était très en colère. Donc, je vous fais écouter ce petit montage donc sur ce qui s'est passé. C'était lundi ou mardi.
C'est trop tôt pour tirer des bilans, mais bon, quand on voit ça, on sait déjà que ça sera catastrophique. Les poires, on sait qu'il y aura une récolte inexistante. Il restera peut-être quelques pommes qui seront classées invendables, industrie, parce qu'elles seront déformées par le froid. Donc ça sera une année peut-être insurmontable même. Parce qu'on a énormément de frais, on a engagé des frais dans les replantations. Donc on ne peut pas subir une année zéro avec des vergers qui vous coûtent 30 à 40 000 euros à l'hectare en replantation.
On est dans une adaptation au réchauffement climatique qui est nécessaire. Hein, on dit réchauffement alors qu'on vient de subir des gelées les plus fortes qu'on n'a pas connues depuis 30 ans. Mais en tout cas, c'est un dérèglement climatique où il faut qu'on travaille sur la recherche, l'innovation et anticiper ces phénomènes-là en évoluant peut-être sur des variétés qui sont moins sensibles, des variétés plus tardives, etc.
Je suis en colère, je parle fort, excusez-moi de ça, mais vous savez, on commence à en avoir ras-le-bol.
Alors, on peut comprendre évidemment la colère à la fin, mais c'est la faute à personne. Enfin, je vais dire, ce phénomène aujourd'hui, ce gel, c'est la faute de personne, Bruno.
c'est la faute de personne, c'est aussi la faute vraiment au réchauffement climatique, parce qu'il faut pas avoir des gelées en avril, c'est pas exceptionnel.
C'est pas exceptionnel.
C'est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel plutôt, c'est d'avoir un mois de février très chaud, très sec. On était en t-shirt au mois de février, ce qui fait que ça fait démarrer la végétation plus tôt que prévu. Et évidemment, on se retrouve au moins au niveau de la floraison avec beaucoup d'avance. Le caractère cette année de gel, il est exceptionnel parce qu'il est aussi national. Toutes les régions ont été impactées, aussi bien la viticulture que les arbres, que le maraîchage, que les betteraves dans le nord. Tout a gelé. Et c'est là que ça me rappelle un petit peu peut-être le gel de 57. Je ne sais pas si Jeannot se rappelle.
56.
Oui. Où même les oliviers en Provence avaient gelé. Donc on est sur une année exceptionnelle. De là remettre en cause les variétés et autres, je sais pas, parce que c'est un peu compliqué, sachant que aujourd'hui le verger alpin est un renouvellement de variétal. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir s'équiper de plus en plus en irrigation pour lutter contre le gel, et voire en éolienne. Qui dans certains cas ont marché, parce qu'il y a des endroits où ça a marché, il y a des endroits où la lutte anti-gel a pas marché. Mais globalement, on est sur un désastre, quoi, et il va y avoir cet été un vrai problème
d'approvisionnement
en fruits, ouais. Avec des fruits qui vont être très chers.
Je reviens sur les moyens qu'ils ont déployés, hein, de tous ces arboriculteurs et ces vignerons pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. On avait l'impression quand même qu'on est avec un système moyenâgeux, le système des bougies. Un système de bougies, alors, ça c'est... Alors c'est bien, c'est certainement bien, mais ça coûte un bras déjà. Et au niveau efficacité, on gagnait, d'après ce que j'ai pu entendre certains expliquer, 1 degré, voire 2 degrés grand max. Quand chopez des -8, comment on fait, quoi? Il n'y a pas un moyen de trouver aujourd'hui un ingénieur qui aurait l'idée d'inventer, lorsqu'il va y avoir des gelées, quelque chose qui pourrait couvrir? Alors ça, tu vas me dire, oui, mais t'imagines, ça va coûter mais oui, mais si non, on prévoit ça, il n'y a pas moyen de couvrir.
Mais tu veux couvrir comment? L'idée des bougies, c'est justement faire un nuage au-dessus de la plantation pour éviter que la température baisse. Mais de toute façon, on est sur des techniques qui sont autour de 1 ou 2 degrés. Il faut gagner 1 ou 2 degrés. L'arrosage par aspersion, c'est en fait protéger la fleur, créer...
Je donne la parole à Georges, c'est ce que tu expliquais. Oui, enfin, tu posais la question tout à l'heure.
Quand on est un peu néophyte, là, ce qui était surprenant, c'est de se protéger du gel en produisant de la glace sur les...
Et oui,
en fait,
c'est vrai que c'est très étonnant.
Ce qui se passe, Georges, c'est que la fleur de pommier ou de poirier va geler à moins 2 ou moins 3 à peu près. Hein. L'eau gèle à zéro. Donc l'idée, c'est de faire un cocon de glace qui va protéger la fleur, mais ça c'est limite dans le temps, et notamment là, on va gagner 1 ou 2 degrés. Il faut pas que les températures descendent trop basses, il faut pas que le froid dure trop longtemps. Voilà, c'est le principe. Mais après, il faut que ce qui s'est passé aussi, c'est que la première nuit il y a eu beaucoup de vent, donc les asperseurs se sont bloqués, ont gelé, et ce qui fait que on a eu des surcharges d'eau sur certains endroits qui ont même déraciné certains arbres, et dans d'autres, pas assez d'arrosage. Donc du coup, parce que quand on commence à arroser, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut surtout pas arrêter. Parce qu'autrement, pour le coup, on gèle les fleurs.
Ah oui.
Donc, c'est
si l'aspersion est gelée, c'est mort après.
Et le problème de l'aspersion, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas tous les vergers sont automatiquement irrigués pour l'été. Mais par contre, on peut pas faire de l'aspersion sur l'ensemble du territoire, parce que autrement, on n'a pas les réseaux dimensionnés pour. La profession rappelle depuis de nombreuses années qu'il nous faut absolument travailler sur des réserves collinaires. Il n'y a pas de souci de stocker l'eau en hiver, on en a suffisamment. Il faut arrêter de penser que l'eau ne coulera plus dans les cours d'eau quand on aura créé des réserves collinaires. Et ces réserves collinaires pourraient venir en appui de des systèmes d'arrosage classique comme sont le canal de Gap ou autre. Il faut savoir que c'est à peu près 15 à 20% d'une exploitation qui peut être arrosée par le système du canal de Gap ou de, ou de vent avant. On est restreint. Il y a des prélèvements autorisés temporaires sur le canal de EDF, mais qui sont que temporaires.
Est-ce que Éric Lyons hein, qui le disait, travailler sur des variétés plus tardives aussi, ça serait une solution. On l'a vu avec Laetitia Allemand, elle en a parlé de son cépage le Mollard, qui est beaucoup plus tardif que les autres, et elle n'a absolument pas souffert justement, enfin, de ce cépage n'a absolument pas souffert.
La vigne dans les Hautes-Alpes n'ont pas souffert, alors qu'elles ont gelé, par exemple, à Pierre-Vert. Moi, j'étais cette semaine à Pierre-Vert et le viticulteur m'a dit, mais ça a gelé, on a eu du moins neuf, ça a gelé. Travailler sur des espèces variétales, bon, il faudrait voir avec. Alors, c'était pas Bernard Allard Latour, c'était Éric Bernard Latour,
qui est
technicien à la chambre agriculture. Donc, il faudrait voir avec ces gens-là quelles sont les variétés. Mais comme je disais tout à l'heure.
Non, j'ai dit Christian. J'avais dit Christian Allard. Et toi, tu me dis que c'est Éric.
C'est Éric Allard.
D'accord. OK.
Voilà. Rendons à César ce qui est parti à César.
Tu as raison.
Non, mais après, changer les variétés, c'est pas si simple que ça, parce que on est déjà, comme je le disais tout à l'heure, en renouvellement du verger alpin avec des pommes bicolores, des autres. Peut-être qu'il existe, je suis pas assez spécialiste, peut-être qu'il existe des variétés plus tardives et qu'on pourrait, mais faudrait que ces variétés-là soient commercialisables aussi. C'est ça le problème aussi. Il faut qu'elles soient adaptées au marché. Si elle n'est pas adaptée au marché, c'est compliqué.
Alors, avec leur système de faire de la fumée, etc., et tout, de fumer, il y a un arboriculteur qui s'est retrouvé en garde à vue après l'intoxication d'une vingtaine de personnes par les feux, justement, qu'il avait provoqués contre le gel. Petite, ça, c'est quand même terrible.
Petite précision. Oui, ben, il y a eu aussi des accidents liés à des gels sur la route avec des arroseurs qui ont un petit peu débordé. Bon, voilà. C'est pas si simple que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système d'arrosage par aspersion ne marche que sur les fruits à pépins.
D'accord.
Tous les arbres à noyaux ne
marche pas.
Ça marche pas. Donc d'où le système, comme tu disais, un peu ancestral des bougies. Voilà.
Et oui.
L'idée, c'est. Alors après, il y a un système qui a été testé suite au gel de 2017. C'est l'apparition dans certains vergers d'éoliennes qui vont brasser en altitude de l'air en altitude. En chauffant sous l'éolienne, on permet de brasser cet air-là. C'est un investissement d'à peu près 50 000 euros pour à peu près sauvegarder 2 hectares et demi. Voilà. Donc, c'est quand même des charges lourdes.
Ah bah oui. Surtout
peut-être
sur
qu'il
celui
faudra en passer par là.
Par
et il faut se rappeler qu'en 2017, on disait qu'il y avait 17 ans qu'il n'y avait plus eu de gelée dans les Hautes-Alpes. Donc, on est dans une période de dérèglement climatique où... Oui, il y a peut-être globalement il y a du réchauffement, il y a surtout du dérèglement avec beaucoup, avec des forts écarts de température et un départ trop précoce de la végétation. C'est peut-être là aussi qu'on subit le plus.
C'est surtout ça à mon avis parce que des gelées excessives, on en a eu par le passé. Moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, on a eu des tuyaux dans notre entreprise qui ont pété parce que la descente des températures avait été très forte et très brutale. C'est pas si vieux que ça, ça fait 7, 8 ans, 10 ans. Donc il est clair que le problème, c'est que là, ces gelées sont positionnées évidemment trop tard dans la saison. De janvier, février, mars, ça passe. Après, lorsqu'il y a la floraison, en général, c'est irréversible. Quoi. C'est ce qui se passe.
Et Georges, toi, tu nous donnais l'exemple du fameux tournoi de hockey.
Oui. C'est un repère un petit peu que j'avais par rapport à ces gelées tardives. Hein,
ouais.
Les seins de glace, hein, je crois.
Oui.
C'est les seins de glace. C'est que chaque fois qu'on organisait le trophée des petits champions, on avait une année exceptionnelle avec un ensoleillement... exceptionnel, tous les invités venaient étaient séduits par le temps chez nous. Et l'année d'après, ben quelquefois des voitures bloquées par la neige à Orsières-Merlette
ou à Briançon.
C'est pour ça que je suis moins surpris, j'ai moins été interpellé qu'il y ait cet épisode de gel.
C'est peut-être
mais comme l'a expliqué Bruno, c'est qu'il intervient après un mois de février fabuleux où on se croyait au printemps.
Oui, cet épisode a touché toute la France.
Ouais, ça c'est inédit.
Voilà.
Et c'est là que toute la filière arboricole et viticole agricole va être touchée en France. C'est là, c'est pour ça que le ministre a, à mon avis, a un peu des soucis, parce que là, ça va vraiment.
Est-ce que les autres pays européens ont été touchés, enfin les pays un peu plus au nord, je parle pas de l'Espagne ou de l'Italie.
On n'en a pas parlé.
Ben ça, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien.
Même l'Italie, je pense, a pu être touchée par les épisodes de gel.
Logiquement,
et l'Espagne.
L'Espagne a été touchée aussi. L'Espagne a aussi été touchée, en partie.
Ce que je voudrais dire simplement, c'est que on parle sans arrêt de dérèglement climatique, comme il y a 30 ou 40 ans, les braves gens disaient dans les chaumières, c'est la faute à la bombe atomique, parce que...
Ah oui, je me souviens de ça. Alors, c'est la faute à la bombe atomique.
Ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a toujours un thème facile à trouver lorsqu'il y a des événements climatiques exceptionnels comme cela. Bon, je ne suis pas tellement d'accord que ce soit un dérèglement climatique, malheureusement, la nature obéit à des cycles. J'ai aussi simplement le cas du 18e siècle avec ce fameux épisode de la bête du
Gévaudan,
tout à fait. Eh bien, c'est une période qui est marquée par les épigraphes comme étant une période de refroidissement extrême. Ça a duré 50 ou 60 ans, sous le siècle de Louis XV, on ne sait pas pourquoi, et puis après ça s'est remonté.
Période glaciaire, pratiquement.
Et tout à fait.
Oui, tout à fait, une petite période.
Voilà, et on ne sait pas pourquoi, donc il est clair qu'ils ont dû avoir des difficultés terribles, parce que apparemment, c'est là où les prédateurs comme le loup venaient se servir d'enfants ou éventuellement de personnes âgées comme je le suis.
Jeannot a vu le loup.
Ah, c'est toi qui as vu le loup alors, comme ça.
Je vous l'ai dit pour
qu'on puisse rebondir dessus. Ben voilà, allez, on a rebondi. Allez, on rebondit sur une autre question, un autre psychodrame de la semaine, les élections. Ah, les élections régionales et départementales. On entendait beaucoup de voix s'élever pour dénoncer cette magouille du gouvernement, confiner la démocratie. Combien de fois on l'a entendu, comme l'a dit notamment Valérie Pécresse. Alors qu'a décidé le gouvernement? À l'époque, c'était la semaine dernière, c'était vendredi dernier, de consulter les maires entre vendredi dernier et lundi. Bon, c'est sûr que c'était un peu chaud patate. Résultat de cette consultation, 60% des maires en France pour, 40% contre. Du coup, elles auront bien lieu fin juin. Alors, on a décalé d'une petite semaine, mais ça aura bien lieu fin juin. Mais c'est drôle de voir d'ailleurs comment l'année dernière, on ne voulait pas des municipales, et comment cette année, on veut des régionales et des départementales. Ça, c'est quand même assez surprenant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on a beaucoup qui étaient montés au créneau en disant non, mais faire des élections municipales aujourd'hui, c'est juste pas possible. Il y a eu un premier tour, il y a eu un deuxième tour qui a été un petit peu chamboulé.
Tronqué.
Voilà. Daniel Spagnou, qu'on a rencontré cette semaine, est revenu justement sur cette élection. Alors lui, il n'était pas particulièrement pour, mais je vous propose de l'écouter.
Je me range derrière la décision des maires, puis je me range surtout derrière la décision du gouvernement, et bien sûr, je ferai tout ce que est en mon pouvoir pour organiser d'une façon parfaite ces élections. Mais il n'en reste pas moins que consulter quand même 36 000 maires en quelques heures par un vote où il fallait dire oui ou non. Il y a des maires, par exemple, hier, qui me disaient, moi, j'aurais voulu réunir mon conseil municipal, demander l'avis un petit peu de la population. Je trouvais que c'était un peu précipité. Mais en même temps, vous verrez, parce que les mesures sanitaires qui vont être imposées vont être draconiennes. Il n'y aura pas de campagne électorale. C'est dommage parce que les élections cantonales et régionales sont un moment privilégié dans la vie de nos communes pour pouvoir justement échanger, dialoguer. Là, on ne pourra pas le faire. Et ensuite, le jour du vote, il va falloir, d'après les premières directives que nous avons reçues, falloir doubler le personnel. Vous savez qu'il y aura deux bureaux de vote. Un pour les régionales, un pour les cantonales, ça va être très très compliqué. Voilà pour quelle raison, moi, j'étais plutôt favorable pour renvoyer à l'automne ces élections.